Ça va être bon. Alors, moi, je me réjouis de vous apporter, c'est exactement comme vous avez cuisiné quelque chose. Quand vous avez cuisiné quelque chose, bah, normalement, je sais que j'ai pas mal de gourmets ici, normalement, vous avez... Moi, j'ai trouvé une chose. Je trouve détestable que je cuisine quelque chose et que je sois, par exemple, seule à le manger. Personnellement, je trouve ça détestable. Bon réflexe. Mais il arrive que quelquefois, bah voilà, les circonstances, tu fais un truc... Oh, barbe ! Pourquoi ? Parce que je trouve que quelque chose qui est vraiment bon, eh ben, pour que ce soit vraiment réussi, il faut que ça se partage. Qui dit oui, amène à ça. D'accord. Et alors, quand je prépare un message... Personnellement, je salive, je me régale, et ça me prend du temps, hein. ça me prend des heures et des heures, hein. Mais je me régale. Et l'idée de l'apporter donne vraiment un sens à mes études, au fait que j'étudie. Alors, quelquefois, je regarde tel message ou tel sujet, et il ne s'agit pas seulement que je l'ai compris, encore faut-il que le Seigneur me donne la capacité de le retransmettre, à moi ou à n'importe quelle personne qui se tient derrière un pupitre. Et aujourd'hui, le titre de mon message, ce n'est pas toujours que je l'annonce d'emblée, mais normalement il se précipite à la fin pour me demander, c'est « La doctrine des Nicolaïtes revient ». Alors, certains disent « Ah bon, il y a une famille qu'on va recevoir ?» Donc, je vais l'expliquer, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et à vrai dire, je me suis aperçue que ça allait dans le droit fil de ce que j'ai enseigné lors des deux précédents cultes, à savoir sur l'universalisme et sur le fait de ne pas ménager la chèvre et le chou. Qui se rappelle de ça? Oui. Alors, parmi les signes des temps, c'est que nous sommes dans une période qui ne va pas tarder à se terminer, et l'humanité va passer dans une autre période. Mais il se trouve que dans la période dans laquelle nous sommes, eh bien, il y a des signes qui la caractérisent. Et quand on parle de la fin de notre période, cette période dite de l'Église, eh bien, on se dit quel est le sujet qui est le plus discuté, quel est le sujet qui ressort le plus au sujet de cette période-là. Alors, certains disent bah, ce sont les désastres à une échelle globale. D'autres, c'est, bah, écoute, on parle d'un super État, on pourrait dire l'empire de l'Antichrist. D'autres se disent, eh bien, non, moi, ce qui caractérise cette période, c'est peut-être l'invasion d'Israël par ces armées qui viennent du Nord. On parle de l'alliance qu'il y a entre l'Iran et la Chine, entre la Russie et certains pays. On parle de toutes ces choses, mais ce qui revient le plus, c'est ce qui va apparaître dans ces deux versets-ci. Le premier étant 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Alors, la version avec laquelle je travaille très souvent, c'est la BFC Bible en français courant. J'utilise beaucoup également la TOB, mais à vrai dire, j'utilise 36, et ici nous avons la Louis II. D'où les petites différences, mais c'est la même chose. Ne vous laissez tromper par personne, d'aucune façon. Car ce jour ne viendra pas avant qu'ait eu lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Celui-ci s'opposera à ce que tous les hommes adorent et considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir, en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ici, il est dit « car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant ». C'est-à-dire que, oui, on sait qu'à un moment, à la fin d'une période de 3 ans et demi, il va y avoir ce personnage qui est la méchanceté personnifiée, qui s'appelle l'Antichrist et qui va essayer de se faire passer pour Dieu en allant s'asseoir dans le temple qui va être reconstruit à Jérusalem. Mais avant tout cela, il y a un signe dont il est question beaucoup plus que de Magog, beaucoup plus que des tremblements de terre, beaucoup plus de toutes ces choses, et c'est l'apostasie. L'apostasie qui veut dire se tenir loin d'eux, qui est l'attitude d'une personne qui renonce publiquement à une doctrine, le mot doctrine veut juste dire enseignement, ou à une religion. L'apostasie, littéralement, signifie une désertion. Des synonymes seraient reniement, abandon, défection, abjuration. Regardez avec moi dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Il est dit « car le temps viendra ». Donc apparemment, ce n'est pas quelque chose qui est tout le temps. Il y a un moment où ces choses vont arriver. Il est dit « car le temps viendra » où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Et le mot « véritable », c'est le même mot qui vient de « hygiène », c'est-à-dire quelque chose qui procure la santé. Ce qui veut dire que l'enseignement que nous recevons, s'il est biblique, il procure la santé dans le sens large du terme, il procure l'équilibre, il procure une bonne hygiène de vie, ce qui explique que si quelqu'un reçoit un mauvais enseignement, comme par exemple s'il est dans une secte, il va avoir des tas de choses qui vont commencer à dérailler dans sa vie. Une des choses, par exemple, que l'on voit arriver très nettement dans une secte, c'est la coupure avec la famille. Voire la coupure avec la société. Hein. Mais un enseignement qui est biblique va apporter, s'il est véritable, c'est le même mot que hygiène, va apporter une bonne hygiène de vie. Et il est dit, donc, le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable. Est-ce que j'ai... Je peux avoir ce verset, s'il te plaît, Mika ? Ou Juju ? Car le temps véritable, les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Et l'idée, c'est ce qu'ils aiment entendre et qui leur est interdit. C'est-à-dire qu'ils iront vers des choses qu'ils ne devraient pas écouter. Il dit, ils s'entoureront d'une foule de maîtres et l'idée, c'est qu'ils vont accumuler en pile. Bah, aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile d'avoir une foule d'enseignants. Donc la Bible nous dit qu'il va venir un temps où les gens ne voudront plus entendre ce qui est vrai et qui pourtant pourrait leur procurer un équilibre et une hygiène de vie, mais ils vont se donner une foule d'enseignants qui vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Combien c'est dangereux ? Combien c'est dangereux ? Parce que tout ce qu'on a envie d'entendre ne cadre pas forcément avec ce qui est vrai. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et il nous est dit que quand ce temps-là sera venu, donc il y a un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. Est-ce quand quelqu'un a la démangeaison, ça veut dire quoi ? Il se gratte, mais il est en train de réclamer plus, 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 plus. D'entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4, ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se détourner vers des légendes. Et l'idée ici, c'est vers des mythes, qui est aussi traduit vers des fables. C'est-à-dire des choses qui ont été inventées, qui ont été créées, qui n'ont aucune capacité de te donner une vie en Dieu. Alors, il est vrai que quand on entend cela, eh bien, on veut être quand même assez sensible à ce que l'on entend comme enseignement, à ce que l'on croit. Maintenant, regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 2. Et à vrai dire, quelque chose qui va vraiment caractériser les temps dans lesquels nous sommes, c'est quoi ? L'apostasie, c'est-à-dire s'éloigner d'un enseignement véritable. Apocalypse chapitre 1, tant pis. Non, parce qu'on va voir le 2 après, je me suis trompée. Mais c'est bien, vous écoutez. Il est dit au verset 19, c'est le Seigneur qui dit à Jean, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Est-ce que vous croyez que nous sommes dans le « ensuite » ? Oui, ça a été écrit il y a 2000 ans. Maintenant, Apocalypse chapitre 2. Alors, Apocalypse, nous avons des visiteurs qui ne sont peut-être pas au courant de la phraseologie biblique, mais le mot Apocalypse a été détourné, notamment par exemple par les témoins de Jéhovah, pour amener leur message en créant une peur chez les gens, ce qui n'a rien à voir avec l'approche biblique. Le mot Apocalypse, en grec, veut simplement dire révélation. Alors, dans notre Bible française, les traducteurs ont pensé bon que le mot Apocalypse était correct. Il est en grec, mais francisé. Or, dans d'autres Bibles, par exemple des Bibles anglaises, le dernier livre de la Bible, ce n'est pas les cartes, c'est le livre de la révélation. Pourquoi ? Parce que ce dernier livre nous apporte la révélation de l'Église, la révélation de Jésus-Christ, la révélation des temps et la révélation qui nous mène vers l'éternité. Donc, le dernier livre de la Bible a à voir avec la révélation. Quand on entend parler de l'Apocalypse, on a l'impression que la terre part en flambeau. Alors, il y a des événements dramatiques, oui, qui se passent, mais la raison d'être du dernier livre, c'est de nous apporter la révélation. Donc, dans ce dernier livre-là, il est écrit au chapitre 2, versets 12 à 17. Il est dit « Écrit à l'ange ». De l'église de Pergame ou Perganum. Alors, l'ange, je vais la faire courte, mais c'est le pasteur. Et ici, le Seigneur est en train de visiter différentes églises d'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie, et il est en train de leur demander des comptes sur l'exercice de leur ministère. Donc, ici, Jésus est en train de s'adresser au pasteur de Pergame, comme si Jésus... Eh bien, rendant visite à l'église La Bonne Nouvelle, s'adresse au pasteur Moulin. Et je suis bien contente qu'il n'ait pas à me donner le message qui suit. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il lui dit, voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à deux tranchants, c'est que c'est la parole de Dieu, la parole. Et Jésus parlant dit, je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. Alors, le trône parle... D'un lieu d'où il exerce son règne, son pouvoir, sa domination. Donc, le trône de Satan, à cette époque-là, il y a 2000 ans, était à Pergamum. On sait qu'il a été à Moscou et qu'aujourd'hui, il est à Berlin. Il y a une exposition à ce sujet-là. Il dit « Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi ». Même à l'époque où Antipas, alors Antipas ou Gaius a été le pasteur de cette église qui a été fondée par Paul à l'origine. Il est question d'église dans ce chapitre 2 de cette église et à vrai dire, elles ont toutes été fondées par Paul en tant qu'apôtre qui ensuite a passé la main à un pasteur. Et il se trouve que Antipas a été mis à mort et il dit là où Satan demeure, c'est-à-dire c'était vraiment parce qu'il a été persécuté. Il n'est pas mort, ce pasteur, parce qu'il était malade, il n'est pas mort parce qu'il a commis des erreurs d'immoralité ou quoi. Non, il y a eu une véritable attaque démoniaque contre lui, sous forme de persécution, et il est mort. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Alors, ce n'est pas le mot reproche, écoute, tiens, j'ai un truc là à te dire. Non, c'est vraiment des griefs lourds. Et il dit, donc Jésus va dire, il dit là ce qu'il est en train de ressentir. Et il dit, tu as chez toi des gens, c'est-à-dire ce n'est pas toute ton église, il y a juste un groupe qui est attaché dans l'idée de qui s'accroche fermement à la doctrine de Balaam, Balaam qui veut dire qui n'est pas, celui qui n'est pas du peuple. Celui-ci incitait Balak, qui veut dire dévastateur, à tendre un piège aux Israélites en les poussant à manger de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles et à se livrer à l'immoralité. De même, tu as également chez toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc d'attitude, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche, c'est-à-dire sa parole, que celui qui, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Et je vais m'arrêter là pour ce passage. Alors, nous sommes dans la ville de Pergame. Et cette ville de Pergame, là, était une ville qui était très, très riche. C'est là que le gouverneur romain, parce que toute la région était sous la domination romaine, le gouverneur y habitait. Et dans cette ville de Pergame, là, eh bien, l'apôtre Paul a établi une église. Église, donc, qu'il a confiée à un pasteur. Il y a l'église qui a été établie par Paul, a été établie sur les fondements de la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure des années, eh bien, il y a d'autres enseignements qui se sont infiltrés. Et le Seigneur semble dur vis-à-vis de ce pasteur de Pergame. Pourquoi ? Parce que Pergame était une ville où si quelque chose se passait à Pergame, elle se passait dans toutes les autres villes. Si quelque chose se passait dans l'église de Pergame, eh bien, ces mêmes choses, bonnes ou mauvaises, se passaient dans toutes les églises de la région, cette ville de Pergame. Et cette église de Pergame avait une grande influence. Il se trouve que cette ville étant sous domination romaine, eh bien, l'adoration à l'empereur de Rome était obligatoire. Ce qui veut dire que non seulement il y avait l'adoration à l'empereur de Rome, mais il y avait également l'adoration à toutes sortes d'idoles. Vous avez entendu parler de Zeus, d'Apollon, de Diane, etc. Il y avait des multitudes de dieux et partout dans la région, eh bien, ces dieux étaient adorés. Donc, vous pouvez vous imaginer que dans cette atmosphère-là, eh bien, être chrétien, ce n'était pas une mince affaire. Être juif, ce n'était pas une mince affaire. Parce que tout d'un coup, il y avait deux groupes qui étaient monothéistes, qui croyaient dans le même Dieu, l'éternel Dieu, qui est un. Et il y avait une persécution terrible qui a commencé sous Néron, à cette époque-là, qui a duré 300 ans. C'est pour ça que dans ses lettres aux églises, quand vous voyez que le Seigneur dit « persévérance », eh bien, croyez-moi que c'est quelque chose. Néron était un personnage odieux, c'était un personnage vicieux, c'était un être sadique, un être cruel qui n'avait pas de limite. Et quand il en voulait à quelqu'un, eh bien, c'était la mise à mort. Ce qui veut dire que les chrétiens, vous imaginez, arrivent avec... Ils sont dans la ville de Pergame et... Dans leur maison, vous croyez qu'il y a des autels qui sont dédiés aux idoles ? Vous croyez qu'il y a des statues qui sont là et qu'ils se penchent devant des idoles ? Non. Vous croyez qu'ils font des sacrifices comme cela pour adorer les idoles ? Non. Quand c'est le moment, le jour le fameux jour du Seigneur, d'adorer l'empereur, vous croyez qu'ils se prosternent ? Non. Ils disent, nous n'avons qu'un seul Dieu qui est révélé en Jésus-Christ. Les Juifs, c'est la même chose. Ils disent, nous servons un seul Dieu. Nous ne pouvons pas adorer des idoles. Nous ne pouvons pas accepter vos croyances. Donc, la persécution s'intensifie. Imaginez que quelqu'un choisisse de suivre le Seigneur et de dire, eh bien, j'accepte de passer par les eaux du baptême, qui est une démarche publique. Eh bien, c'était la mise à mort pour ce chrétien. Ou alors, eh bien, il était asocial, il était rejeté de la société. Sans compter que s'il y avait un tremblement de terre, et il y en a eu pas mal dans la région, s'il y avait un désastre quelconque, c'était la faute de qui ? La faute des chrétiens ou c'était la faute des juifs ? Parce qu'à l'époque, ils pensaient que s'ils n'adoraient pas ces dieux, que se passait-il ? Ils attiraient des catastrophes sur eux-mêmes. Donc les chrétiens étaient mis au banc de la société, c'était des parias, on ne voulait pas d'eux, c'était des empêcheurs de tourner en rond. Non seulement cela, mais ils passaient, les chrétiens passaient, pourquoi ? Pour des intolérants. Oh, ils disent qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Regarde-nous tous les dieux que l'on a. C'est de votre faute s'il nous arrive ces catastrophes. On passait pour des arrogants. On passait aussi pour des gens un peu simplistes, certainement étroits d'esprit, et surtout des gens qui ne sont pas de bons patriotes. Le christianisme était considéré comme une secte parce qu'il brisait un moule ancien et les gens de l'époque ne supportaient pas qu'il y ait un seul chemin, un seul Dieu. Alors, on appelle ça quoi ? Ben, le paganisme. On pense que les païens sont des gens qui adorent les arbres. Elle, c'est une adoratrice des arbres. Vous en avez entendu parler ? On pense que les païens sont des gens qui se baladent nus dans les forêts avec une plume sur la tête. On pense que les païens... On a une image du paganisme. Mais le paganisme... Ça n'est pas cela. Le paganisme, c'est se donner l'autorisation d'adorer qui on veut, sachant que personne n'a la vérité. Le paganisme se veut libéral dans le fait qu'il refuse qu'il y ait un seul Dieu. Ici, le Seigneur dit qu'il y a un groupe dans l'église de Pergame qui enseigne la doctrine des Nicolaïtes et il nous dit que cette doctrine-là vient de Balaam. Pourquoi ? Ben parce que Balaam, qui veut dire celui qui n'est pas du peuple, il nous est... Alors je vais vous parler de cette histoire de Balaam-là, hein. Maintenant, vous la trouvez dans Nom, chapitre 22, mais 24, il faut que je vous le résume. Vous vous rappelez que Balaam, qui était le roi, un roi à Moab, et il a voulu se débarrasser pour des raisons d'abord commerciales, il a voulu se débarrasser des Hébreux qui se trouvaient juste en face de lui, de l'autre côté du Jourdain. Pourquoi ? Parce qu'il se disait, oui, les Hébreux, ils sont nombreux, regarde leurs troupeaux, vont manger toute l'herbe, les nœuds n'auront plus de place, et puis ensuite ils grandissent et ils prospèrent, et nous, dans peu de temps, on n'existera plus, donc on ne veut pas de ces Juifs, on ne veut pas de ces Hébreux. Et le roi de Moab, eh bien, s'est trouvé Balaam, qui était un prophète en Israël, et c'était un prophète qui avait la réputation d'être corrompu et d'enseigner des choses fausses. Je vais vous prouver pourquoi je sais qu'il enseignait des choses fausses. Donc il est allé voir ce prophète et il a dit, tu sais quoi, ce peuple qui est en face de nous, eh bien il prospère parce qu'il est béni. Donc toi, eh bien tu es un prophète et tu vas me le maudire parce que je sais que ce que tu vas dire va arriver. Et donc le prophète a dit, ah non. Non, je ne peux pas les maudire, non. Il a dit, allez, ils lui ont donné de l'argent. Il a dit, bon, allez, dans ces cas-là, je vais voir, je vais essayer, si Dieu me laissera maudire mon peuple, entre parenthèses. Donc, ça s'est répété trois fois, et trois fois, le Seigneur a dit par la bouche de celui qui voulait maudire, non, ils sont bénis, et je ne changerai pas d'avis vis-à-vis de ce peuple-là. Et il y a quelque chose d'intéressant qui nous est dit, je vous le lis, dans Nom, chapitre 31, verset 16. Donc, ce prophète corrompu n'a pas pu maudire le peuple d'Israël, mais il nous est dit au chapitre 31 du verset 16, il dit, vous le savez bien pourtant, ce sont des femmes madianites qui, sur les conseils de Balaam, ont poussé les Israélites à commettre des fautes graves envers le Seigneur lors de l'affaire de Péor. Et à la suite de cela, un fléau s'est abattu sur le peuple du Seigneur. Ça veut dire quoi ? Cela veut dire que le prophète n'a pas pu maudire le peuple. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné un tuyau aux ennemis des Hébreux. Il leur a dit, moi je ne peux pas y toucher, je ne peux pas les maudire, vous les aurez devant vous pour toute l'éternité. Il y a dit, une manière d'affaiblir ce peuple fort, faites en sorte que vos femmes les séduisent. Faites en sorte qu'ils soient happés par votre religion, qu'ils soient happés, qu'ils se corrompent, qu'ils rabaissent leur standing. Faites en sorte qu'ils fassent un compromis. Alors, je vais juste vous lire, mais il est dit, dans Jude 11, il est dit, « Ils se sont abandonnés aux égarements de Balaam. » Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 15, il est dit, « Abandonnant le droit chemin, ils se sont fourvoyés sur la route de Balaam. » Donc, on sait une chose, c'est que Balaam est quelqu'un qui n'a pas pu maudire le peuple d'Israël. En revanche, il a donné des conseils aux ennemis d'Israël qui a été de pousser le peuple d'Israël à se laisser aller à des compromis. Et la Bible nous dit que la doctrine de Balaam est liée à la doctrine des Nicolaïtes. C'est-à-dire, des milliers d'années plus tard, il retrouve cette même doctrine, elle porte un autre nom, mais c'est bis repetita. Alors, la doctrine des Nicolaïtes, il a été dit que cela viendrait de Nicolas d'Antioche, dans Actes chapitre 6, qui était un prosélyte, c'est-à-dire qu'au départ, c'était un prosélyte des Juifs, c'est-à-dire au départ c'était un païen, c'était quelqu'un qui adorait tout, qui adorait n'importe quoi. C'était vraiment quelqu'un qui était ouvert à tout, mais qui ne croyait pas dans le Dieu unique de la Bible. Et ensuite, il est vers la religion juive, prosélyte des Juifs, et ensuite il a entendu l'Évangile et il s'est tourné vers l'Évangile. Mais il semble que ce fameux Nicolas d'Antioche ait resté ouvert à toutes les possibilités. Et il a continué à lui aussi propager cette fausse liberté. Et c'est arrivé jusque dans l'église de Pergame. Et le Seigneur dit, arrête, parce qu'il y a des conseils qui sont donnés dans ton église, des conseils qui poussent au compromis, des conseils qui poussent à la corruption, des conseils qui poussent à la fornication, des conseils qui sont en train de diluer la vie des chrétiens. Alors, il est évident que c'est grave. Quand ça s'est passé, il y a eu donc la persécution qui a duré à peu près 300 ans, cette persécution où Néron était acharné contre les chrétiens. On sait que dans les rues de Rome, la persécution était là et que les chrétiens étaient transformés en torches vivantes pour éclairer les rues. Il y a eu des torches vivantes aussi à Auschwitz. Ces gens qui croient en un seul même Dieu, à Birkenau et tout ça. Et puis après, pendant à peu près 17 siècles, eh bien, ça a été une période relativement tranquille pour l'Église. Ici et là, il y a des persécutions, et malheureusement, on en entend parler, mais les persécutions sont différentes. C'est que les persécutions qu'il y avait à l'époque, c'était des persécutions qui venaient du paganisme, pas des musulmans. Il n'existait pas, la religion musulmane n'existait pas. Elle est née en 600 et quelques. C'est la particularité, c'est que ça venait du paganisme. Ce paganisme qui est une religion, c'est pas athée. Athée, c'est je ne crois en rien. Païen, c'est je crois que j'adore qui je veux, que je peux sacrifier à qui je veux. Païen, c'est différent. Et la Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure, qu'il viendra un temps, je vous le relis, il viendra un temps où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres. Donc ils cherchent des maîtres. Ce ne sont pas des chercheurs du CNRS, ce sont des maîtres spirituels. Mais ils se détournent, c'est-à-dire, et il nous est dit également que viendra celui qui, alors, imposera, je peux voir la photo, de celui qui imposera de se détourner du seul Dieu vivant. Et on appelle ça quoi ? Le paganisme. Donc, si on regarde bien ce qui va se passer, mes amis, on est en train de retourner vers le paganisme. Et le paganisme, c'est quelque chose qui est acharné. Il ne faut pas croire que les païens sont des gens qui sont tendres et qui sont indifférents, contrairement à l'idée que l'on se fait. D'ailleurs, n'y a-t-il pas des gens parmi nous, peut-être, ou qui entendent ce message via Internet, à qui il a été refusé une promotion injustement? Parce que celui qui avait le droit professait, eh bien, moi je crois en un Dieu unique, je crois dans le fait de mener une vie séparée, sanctifiée. Aujourd'hui, si vous dites, moi je crois dans un Dieu unique qui est révélé en Jésus-Christ, de plus en plus, je dis, ou plutôt de moins en moins, les gens restent indifférents. Avant, on aurait dit, oh, d'accord, allez, tiens. Ouais. Non, mais aujourd'hui, il y a une espèce de résistance qui est beaucoup plus visible. Si vous dites aujourd'hui, eh bien, moi, je crois qu'Israël a le droit à sa terre, il ne l'a pas volée. Waouh ! Tu sais, aujourd'hui, c'est incroyable. On nous traite d'intolérants. On nous traite d'intolérants. Si on dit non, abstinence avant le mariage, c'est pas simplement « t'es un idiot », c'est « t'es un méchant, toi ». Toi, t'es qui, toi ? Donc, on est en train de voir un retour au paganisme, un retour à cette voie de Balaam, qui est l'enseignement qui a été repris par les Nicolaïtes. Et la Bible nous dit, on l'a lu, que ce qui a été est et reviendra. Alors, comment... Alors, on pourrait s'étendre beaucoup plus, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais juste le mot Nicolaïte, Nikos, conquérir, vaincre complètement, et Laos qui parle des gens, du peuple, et à vrai dire qui a donné le mot Laodicée, la ville de Laodicée, qui parle de la justice du peuple. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est purement humaniste. Dieu. Le Dieu unique, le Créateur, le seul juste, il n'en est pas question. C'est l'être humain qui se fabrique ce qu'il veut. Et la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam, c'est celle du compromis. Alors, comment discerner les principaux signes modernes qui indiquent une influence nicolaïte? Ben même peut-être dans une église, parce qu'on peut la retrouver certainement autour de nous, mais dans une église, eh bien c'est parce que l'accent n'est pas placé sur une vie sainte et séparée du monde. C'est-à-dire, personne n'a tort, on est libre. Tu sais, avec cette philosophie, je dirais, il n'est plus question de la vérité, Il est question de respecter. Il n'est plus question de la vérité, il est question d'être libre. Ce qui est une mauvaise définition de la liberté, parce que ça s'appelle un abus de la grâce. Premièrement, donc, l'accent n'est pas placé sur une vie sainte et séparée du monde. Deux, l'accent n'est pas placé sur la vérité absolue ou une morale absolue biblique. Pourquoi ? Parce que les païens sont ouverts et pensent que celui qui croit en la vérité est quelqu'un de méchant et d'intolérant. D'où, non, Dieu ne peut pas être le juge. Il n'y a pas si longtemps que cela, une femme mère aux États-Unis a été mise en prison parce qu'elle a refusé de marier des homosexuels. Ça, c'est quoi ? Ce n'était pas des religieux, c'est une philosophie païenne qu'il y a eu derrière le fait de dire « on refuse une morale biblique, on refuse qu'il y ait une vérité absolue, on peut tous penser ce que l'on veut et vivre comme on veut ». Dans un sens, oui, mais il n'empêche que la vérité absolue existe quand même. Dans une église qui est sous une influence nicolaïte, il n'y a pas d'accent placé sur les doctrines bibliques, c'est-à-dire on ne peut pas exclure les croyances des autres. La Bible n'est plus la référence qui permet de discerner entre le bien et le mal, elle est juste un tas d'illustrations pour les sermons. En général, les enseignements peuvent être remplacés par des activités sociales afin d'attirer plus de gens. Dans certaines églises aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui ne croient plus qu'il y a un enfer. Un enfer, réellement un enfer. Il y a des gens qui croient, qui ont adopté la théorie de l'évolution de Darwin, qui est une autre manière de dire Dieu n'existait pas parce qu'il n'est pas le créateur. Et quatrième point, quand une église est sous une influence des Nicolaïtes ou de cet faux enseignement, eh bien, Jésus n'est plus le seul chemin pour aller au ciel. C'est-à-dire, c'est l'universalisme au nom de la tolérance. Tout le monde a un morceau de la vérité. Tout le monde est réconcilié avec Dieu. Et même certains vont jusqu'à dire, y compris Satan. Et ces enseignements-là, eh bien, mes amis, font partie du paganisme. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ le Sauveur, c'est quelqu'un qui est né nouveau. Quelquefois, les gens croient en Jésus et ils ne réalisent pas que leur cœur a été changé et ils ne savent pas. Mais ils disent, oui, moi, Jésus est Seigneur et Sauveur, d'accord. Si quelqu'un dit, tu sais, il y a d'autres manières d'aller à Dieu, tu ne peux pas juste comme ça être intolérant, tu es étroit. Il y a plusieurs chemins. Alors là, attention, parce que nous sommes en train de flirter avec le paganisme. Et il va y avoir un retour. Vous savez, nous, on est tellement habitués, surtout en France, où l'humanisme est tellement fort depuis la Révolution de 1792. On est tellement... C'est ça, hein, 1792 ? Combien ? 89, je vais quand même le dire, merci. Hein. J'ai mélangé sans doute avec Christophe Colomb ou un truc dans ce goût-là. Mais en tout cas, c'est dit derrière le micro, 1789, c'est juste. Mais, et donc l'humanisme a vraiment, on est habitué. Donc avoir de la résistance, voir les églises qui ont du mal à avoir des autorisations au nom de la laïcité, alors que la laïcité, mes amis, ça n'est pas... n'interdit pas de croire, mais protège la liberté de culte, dans le sens où chacun est libre d'adorer, etc. Protection. Mais en même temps, il y a une limite qui est de moins en moins définie. Parce qu'il y a une différence entre protéger la liberté de culte et de dire « tu n'as pas le droit et on va te résister ». Tu n'as pas le droit de croire en un Dieu unique. Tu n'as pas le droit de me dire, il y a un seul Dieu qui est juste, il est la vérité. Il est le point de référence. Il est celui qui appelle mal, mal, bien, bien, il fait la différence. Et je vais savoir ce qui est bien en connaissant la différence du bien de Dieu, et je vais savoir ce qui est mal en sachant ce qu'il appelle lui mal. Est-ce que vous comprenez ? Ce qui veut dire, mes amis, alors... Vous savez, l'Église va de gloire en gloire. Inutile d'avoir peur de quoi que ce soit. Non, mais je pense qu'il est bien. Alors, c'était assez intéressant, je trouve, parce que je n'aurais pas pensé prêcher sur ce sujet-ci. Quand je vous ai parlé de l'universalisme il y a 3 semaines, je n'aurais pas pensé cela. Mais je peux voir que depuis 3 semaines, le Saint-Esprit va dans la même direction. Donc, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'apprécier la vérité. Il s'agit d'aimer la vérité. Et pour aimer la vérité, il faut se donner les moyens de l'entendre. Il faut se donner les moyens de l'étudier. Il faut se donner les moyens de dégager du temps pour lire les Écritures. Vous savez, quand j'ai entendu l'Évangile, avant d'entendre l'Évangile, j'avais peur. J'avais peur, je cherchais Dieu. Je ne voulais pas de la religion, ça c'est absolument certain. Mais je cherchais, j'avais des questions existentielles, mais il y avait une peur en moi. C'était de tomber dans une secte. Parce qu'il y avait une chose que je savais, c'est comment savoir qui a la vérité. Pourquoi ? Parce que je ne connaissais pas la vérité. Je n'avais pas de référence. Comment peux-tu savoir si tu as 80 grammes de beurre pour ta recette ? Comment peux-tu savoir que tu as 80 grammes si tu n'as pas quelque chose qui te dit quand le point zéro commence ? Mais une fois que nous avons la Bible, mes amis, nous devons tout faire pour se l'approprier, mais soi-même, pas attendre que le pasteur la lise le dimanche. Non, soi-même aller vers les Écritures. Ce qui veut dire, oui, ne pas ménager la chèvre et le chou. Ce qui veut dire, oui, être certain que Jésus est le chemin vers le ciel. Oui, dire il existe un Dieu. Il n'y en a pas 36. Et alors, on n'est pas obligé de le dire d'une manière agressive, et je ne crois pas d'ailleurs qu'il soit nécessaire, comme je l'ai dit la dernière fois, la vérité se suffit à elle-même. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, eh bien, tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais moi aussi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Ce qui veut dire que dans les églises, on doit faire attention à ne pas faire de compromis. Et ça, c'est quelque chose qui revient. 2016, pas de compromis. Pas de compromis. Parce que le compromis émane de cette philosophie païenne. Ce qui veut dire, ben, tout va bien. À vrai dire, tout va bien parce que je trouve que c'est vraiment formidable de connaître la vérité. C'est formidable de connaître les enseignements bibliques. C'est formidable de connaître les Écritures. C'est formidable d'avoir une Bible. Hein. Il n'y a pas encore si longtemps, les gens étaient obligés de recopier les feuilles de la Bible, ce qui se passe dans certains pays. Ils sont obligés de recopier les feuilles de la Bible quand ils en ont une, de manière à avoir les textes sacrés. Nous, nous en avons en plusieurs versions. Et peut-être que dans notre vie, on a besoin de se dire, y a-t-il des domaines dans lesquels j'ai fait des compromis ? Et se dire, tu sais, à un moment, eh bien, ce compromis-là va m'amener vers d'autres compromis. Et bien sûr qu'on a tous des domaines dans notre vie où style peut faire mieux. Oui, bien sûr. Donc, bienvenue dans le club. Mais je veux dire, le paganisme continuant. Il y a un moment où on ne va pas pouvoir être gris, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible d'avoir un pied dans le monde et un. Ça ne sera plus possible parce que si nous ne décidons pas ce que nous voulons vivre en tant que chrétiens, eh bien, le monde va nous forcer à nous amener à prendre position. Et moi, je préfère, moi, déterminer ce que je vis de ma vie chrétienne et quand la pression vient du monde, bah, voilà qui je suis, voilà ce que je crois. Et tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas comment terminer ce sermon, pour vous dire la vérité. Donc, ça doit sentir, non ? Tu n'as pas l'impression qu'elle patine un peu, là ? Elle ne sait pas où se poser. Non, je ne sais pas où me poser. C'est vrai, je ne sais pas où me poser. Donc, ceux qui sont spirituels le savent. Hein. Ça arrive. Je ne sais pas comment terminer. Je ne sais pas quel genre, quelle phrase donner pour terminer. Peut-être que « Amen ».